7h30 sur France Culture. Et voici le journal de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour. Mediapart ouvre un nouveau tiroir dans l'affaire des liens présumés entre Nicolas Sarkozy et feu Mouammar Kadhafi. L'entourage du président aurait tenté de faire annuler la condamnation du beau-frère du dictateur pour l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989. Toutes les explications dès le début de ce journal avec Florence Turme.
Après Oxfam, c'est Médecins Sans Frontières qui se retrouve au cœur d'accusations d'abus sexuels de certains de ses salariés en Afrique. La BBC publie les témoignages édifiants d'anciennes collaboratrices.
Et comme chaque vendredi, notre reportage interactif. Le hashtag célèbre le premier anniversaire au Palais Bourbon de députés novices de la majorité. Comment s'en sortent-ils dans une assemblée sous tension permanente? Nous verrons cela avec Léa Mormin-Chauvac dans 5 minutes. Faut-il relancer l'enquête sur l'attentat du DC-10 d'UTA? C'était en 1989, 170 morts dans l'explosion au-dessus du désert nigérien de cet avion qui devait relier Brazzaville à Paris. Acte terroriste, la Libye pointée du doigt et finalement si proche du régime de Mouammar Kadhafi qui avait été condamné par contumace à Paris. Parmi eux, il y avait un certain Abdallah Senoussi, beau-frère du Raïs, dont le nom est au cœur aujourd'hui d'informations nouvelles dévoilées par Mediapart. Bonjour Florence Turm.
Bonjour.
Le site d'information précise ses accusations contre Nicolas Sarkozy et son entourage, qui aurait donc tenté de faire annuler la condamnation en assises de Senoussi, avec en toile de fond bien sûr les soupçons de financement libyen dans la campagne de 2007.
Oui, des accusations très lourdes et les journalistes de Mediapart expliquent d'où elles proviennent. En Libye, ils ont rencontré un ancien opposant au régime de Kadhafi, aujourd'hui conseiller municipal de Tripoli, qui détiendrait un dossier constitué par les services secrets libyens sur l'attentat du DC-10 d'UTA. Ces documents mentionneraient les repérages effectué à l'aéroport, un test préalable d'explosion, le tout supervisé par Abdallah Senoussi, alors numéro 2 de l'Office de sécurité extérieure. Abdallah Senoussi, condamné à perpétuité en France en 99. Alors, ces éléments sont-ils de nature à faire rouvrir l'enquête, à lever les zones d'ombre qui persistent, comme le demandent depuis longtemps les familles des victimes? C'est théoriquement possible, d'autant qu'il s'agit d'une condamnation par contumace prononcée en l'absence de l'accusé. Voilà pour la première question. Mais cette enquête rejoint aussi l'instruction en cours sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ancien président de la République, je vous le rappelle, a été mis en examen le 21 mars dernier pour corruption passive. Et l'un de ceux qui assure avoir personnellement supervisé le transfert de 7 millions d'euros, c'est précisément Abdallah Senoussi. Mediapart affirme que Thierry Herzog, l'avocat et ami de Nicolas Sarkozy, s'est rendu à Tripoli en novembre 2005 avec la proposition de faire annuler le mandat d'arrêt et la condamnation prononcée à l'encontre du beau-frère du colonel Kadhafi, une offre qui constituerait à elle seule, inutile de le souligner, un acte particulièrement grave. Là aussi, Mediapart publie un mémorandum en arabe du procès-verbal de cette réunion, mentionnant également la présence de Francis Piner, avocat historique des familles des victimes de l'attentat du DC-10, ce que dément formellement Maître Spiner. Face aux accusations d'Abdallah Senoussi, Nicolas Sarkozy, lui, a toujours mis en doute la moralité d'un homme à l'origine de l'attentat du DC-10, un homme à qui les juges d'instruction pourraient avoir désormais d'autres questions à poser.
Florence Turme, merci beaucoup. Vote définitif au Sénat et donc texte définitivement adopté sur le secret des affaires, cette transposition dans la loi française d'une directive européenne qui est censée protéger les intérêts des entreprises mais qui reste très violemment dénoncée par ses détracteurs comme une entrave à la liberté d'informer. La bataille sur le secret donc des affaires devrait continuer au Conseil constitutionnel. L'Eurogroupe qui annonce la fin du plan de sauvetage pour la Grèce, ce sera le 20 août avec un accord hier des ministres des Finances de la zone euro sur une dernière tranche d'aide pour la Grèce à 15 milliards d'euros et un allègement enfin de la dette grecque, accord arraché donc à l'Allemagne dans la nuit dernière. Le monde de l'humanitaire à nouveau mis en cause dans une affaire d'abus sexuels après Oxfam en Haïti, c'est cette fois Médecins Sans Frontières qui est visé par des soupçons mis en lumière par la BBC. Le grand média britannique publiait hier une série de témoignages d'ex-collaboratrices de MSF qui accusent des membres des équipes non médicales d'avoir notamment eu recours à des prostituées en échange de médicaments. Précision depuis Londres d'Antoine Gignot.
Les témoignages sont anonymes, il y en a 8 au total. 8 femmes qui ont travaillé dans plusieurs bureaux européens et africains de l'organisation humanitaire. 8 femmes qui parlent de harcèlement sexuel, de comportement déplacé et affirment que des membres de l'organisation ont à plusieurs reprises fait venir des prostituées dans les locaux d'MSF. Au Kenya, c'est un cadre qui est accusé d'avoir fait appel à de très jeunes filles. Au Libéria, c'est un employé qui est soupçonné d'avoir eu des rapports sexuels avec plusieurs femmes en échange de médicaments pendant la crise liée au virus Ebola. Ces témoignages sont pour l'instant invérifiables, expliquent les responsables d'MSF qui ont ouvert une enquête tout en présentant des excuses pour les cas de harcèlement, d'abus ou de maltraitance. La directrice exécutive de l'antenne britannique explique qu'il existe déjà des procédures de signalement après les révélations sur les abus sexuels au sein de l'organisation Oxfam. MSF a licencié 19 personnes.
Antoine Gignot à Londres.